Divergence FM présente l'hebdo du Sherpa, une émission animée par David Bou. Tous les mardis de 18h à 18h30, un gros sac à dos d'informations. Chaque semaine, une revue de presse et une interview percutante. Théâtre, gastronomie, voyage et bien d'autres sujets. L'hebdo du Sherpa, en direct tous les mardis, de 18h à 18h30.
Bonjour à tous et vous êtes sur Divergence FM 93.9. Aujourd'hui, dans l'hebdo du Sherpa, je reçois Nicole Dubois, la directrice de la grotte de Clamouse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la grotte de Clamouse se situe entre Saint-Jean-de-Fosse et Saint-Guilhem-du-Désert, c'est bien ça ?
Le désert.
Saint-Guilhem-le-Désert, pardon. Bonsoir, Nicole.
Et bonsoir.
Bienvenue. Bienvenue à l'hebdo du Sherpa. Aujourd'hui, on va parler de la grotte de Clamouse. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne à l'instant. Alors, la grotte, c'est une affaire de famille, en fait ?
Ce que vous me disiez ? C'est une affaire de plusieurs familles et c'est surtout une histoire d'amour, en quelque sorte. Parce que, comme je vous le disais, en fait, c'est une grotte qui est connue depuis toujours, puisque l'entrée naturelle s'ouvre très largement sur la route qui va, comme on l'avait dit, de Saint-Jean-de-Fosse à Saint-Guilhem-le-Désert. Et par cette entrée naturelle, au moment des crues, il y a une gigantesque cascade qui s'échappe. Donc, c'était de notoriété publique qu'il y avait là derrière cette entrée béante, un énorme réseau. Le problème, c'est que tout le monde le savait, les spéléologues essayer de pénétrer ce réseau, mais malheureusement, ou peut-être heureusement, un siphon leur bouchait l'accès aux grandes salles. Siphon qui se situait très près d'ailleurs de l'entrée naturelle de la route, à quelques 100-150 mètres.
La grotte a été découverte à peu près en 1945, c'est
exactement,
bien ça ?
Exactement, elle a été découverte en 1945, évidemment au mois d'août. Les spéléologues qui guettaient sans arrêt l'abaissement du niveau de l'eau dans le siphon ont pu passer une fin août 1945 et donc franchir ce siphon qui finalement n'est pas très important, mais en 1945...
Il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui.
Voilà, on ne plongeait pas facilement dans les siphons.
Alors, sa longueur totale est d'environ 4 km. Je n'ai pas de point de comparaison, sinon que j'ai... Bon, c'est vrai qu'il y a la grotte des Demoiselles qui est connue aussi. Quelle est la plus grande ? Est-ce que c'est comparable, finalement ?
Comparable à qui ? À des grottes plus... La longueur, vous voulez dire ?
Oui, la longueur, par exemple.
Ah, mais il y a des grottes gigantesques aux États-Unis.
En France, en France.
Non, en France... il y a quand même des grottes importantes, de très longues galeries. Mais par exemple, aux États-Unis, vous avez des grottes qui font plus de 20-30 km, également en Allemagne. Attendez, c'est Mammoth Cave aux États-Unis, et en Allemagne, tout le réseau du Unlock, c'est plus de 100 km.
100 km
de galeries. Oui. Donc les 4 km de Clamouse, disons que c'est à l'échelle des massifs français et on n'est pas dans les grands massifs comme en Allemagne et comme aux États-Unis. Mais en fait, c'est déjà quelque chose de conséquent.
4 km, donc la grotte de Clamouse. Donc elle a été ouverte pour les premières visites touristiques à partir de 1965.
Oui, exactement. C'est 20 ans après la découverte, parce que les propriétaires, à juste titre, avaient entendu parler de la richesse de cette grotte et ne voulaient pas la laisser exploiter par n'importe qui. Ils voulaient la garder. Ils ont très, très bien agi. Ce qui fait que jusqu'à l'ouverture, elle a été protégée du vandalisme, malheureusement, ce qui s'est produit dans de très nombreuses grottes à l'époque, où on ne protégeait pas les galeries souterraine comme on le fait actuellement.
C'est-à-dire quel genre de vandalisme alors ?
Il y a des gens qui allaient pour prélever des concrétions et les vendre,
vendre des
stalactites, des stalagmites. Oui, à l'époque, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites comme ça. Heureusement, là, maintenant, c'est assez bien protégé. Et en fait, un clamouse, rien de tout ça, parce que, je vous dis, elle a été jalousement conservée par les propriétaires d'abord. Et puis, ils se sont laissés convaincre par un groupe de 5 spéléologues qui leur garantissaient d'assurer la protection, de la mettre aux dispositions du public, mais essentiellement de la protéger. Et moi, je suis une...
si vous une passionnée, voulez. J'imagine.
Oui, on ne peut pas s'occuper d'un site pareil sans passion. Hein. Disons que j'ai pris le relais en quelque sorte de ces familles et je maintiens, si vous voulez,
la tradition.
La tradition et mon souci majeur, c'est la protection.
Nicole Dubois, aujourd'hui qu'on reçoit, qui est la directrice de la grotte de Clamouse, c'est une affaire de famille, comme on vient de le dire. Cette grotte, elle a été découverte il y a plus de 50 ans et elle fait l'objet de pas mal d'études et de recherches, c'est cela ?
Oui, oui. De toute façon, le réseau de Clamouse, je vous dis, les spéléologues s'étaient passionnés par tout ce réseau qui vient du Larzac, du Causse du Larzac, et on sait exactement d'où viennent les eaux de Clamouse. Il n'y a pas une source de Clamouse. Il y a 5 points d'absorption sur le Larzac qui conduisent à Clamouse. Autrement dit, de tout temps, on a su d'où venaient les eaux de Clamouse, parce qu'on colorait, puis on voyait bien la résurgence qui sortait colorée. Donc ça, c'est connu depuis longtemps. Ensuite, lorsqu'on a pu pénétrer à l'intérieur, parmi les 5 spéléologues, certains étaient des scientifiques de haut niveau qui étaient sensibilisés à tout ce que pouvait nous apporter la connaissance des grottes, la connaissance de l'interprétation de l'âge à partir des concrétions. Et donc, très, très rapidement, mon mari, qui était le président de la société à l'époque, a favorisé les recherches dans la grotte de Clamouse. Et plusieurs équipes se sont succédées, notamment il y a eu une équipe de Belges, ensuite une équipe d'Italiens, il y a eu le congrès d'hydrologie et de karstologie qui s'est tenu à Clamouse en 2001.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on a découvert des nouvelles cavités alors, des nouvelles...
Non, on n'en est plus, si vous voulez, à faire de l'explo. L'exploration, elle est faite. C'est vrai, on retrouve toujours des petites galeries dans lesquelles on pense être les premiers, parce que c'est très complexe, ce réseau de Clamouse. Oui. D'ailleurs, la première partie est appelée le labyrinthe, juste à bon escient, parce qu'il y a des galeries qui partent dans tous les sens. On en est plutôt, si vous voulez, à étudier les concrétions qui nous apportent Et il y a encore tout un champ de recherches qui sont à poursuivre. Notamment, on a trouvé au fond d'une galerie des quantités de coquilles d'escargots. Alors, ces escargots que l'on trouve sous terre, ils permettent de dater l'âge de ces galeries, en tout cas l'âge de l'époque à laquelle la galerie était occupée par les eaux, si vous voyez.
Des escargots fossilisés ou...
Non, pas du tout. Des coquilles d'escargots.
Des coquilles
d'escargots.
On ne parle pas du tout de fossiles, hein, d'éléments préhistoriques, pas du tout.
Vous savez, la fossilisation, c'est un phénomène qui est très lent. Donc, non, les fossiles, ça suppose une autre histoire, si vous voulez.
Tout à l'heure, on parlait également de la propriété de cette grotte. Effectivement, le propriétaire terrien, qui est propriétaire d'une terre, est également propriétaire des souterrains, comme on le disait tout à l'heure. Le découvreur, je crois qu'on dit l'inventeur, c'est ça, non ?
Oui, l'inventeur, le découvreur.
Comme l'a fait Guy Kosker pour la grotte Kosker. Le découvreur, j'imagine, il y a la famille, les héritiers qui sont toujours dans ces familles-là qui sont propriétaires aujourd'hui, c'est ça ?
Pas du tout.
Pas du tout, ça remonte à trop loin, en fait ?
Non, pas du tout. Les découvreurs, à l'époque, c'est le Spéléo Club de Montpellier. Mmh. C'est une équipe du Spéléo Club de Montpellier qui a eu la chance de passer, ils étaient 7, à de franchir le siphon les premiers. Vous voyez. Et d'ailleurs, quand vous parliez de le premier, qui est le premier, c'est toujours un gros problème en spéléo de savoir lequel est passé en premier. Et pour la Gourde-Kosca, ça a été le cas aussi.
Je crois qu'il était seul.
Oui, il était seul, mais c'est pour d'autres grottes. Ils étaient plusieurs, donc ils ont décidé.
Ils sont souvent plusieurs, effectivement.
Ils ont décidé entre eux qui serait le premier. En fait, ce n'est pas très important tout ça, parce que ce qui est important, c'est de savoir que ça a été découvert par des spéléologues, des sportifs. Et puis, bon, c'était en 45, après, il s'est écoulé quasiment 20 ans entre la découverte et l'aménagement. Donc, 20 ans, à l'époque de la découverte, les spéléologues avaient entre 25 et 30 ans. Donc, vous voyez, après, ça s'est dispersé, l'équipe s'est dispersée. Et l'équipe qui a aménagé, dans cette équipe, il y avait un seul des découvreurs qui s'appelait Gabriel Villard, qui a donné le nom à la société d'exploitation, la société G. Villard et compagnie, Gabriel Villard et compagnie.
L'historique de la grotte. Aujourd'hui, je reçois dans mon émission Nicole Dubois, qui est la responsable de la grotte de Clamouse. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Nicole Dubois. Vous êtes sur Divergence FM.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais des frères d'Astère, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
De retour sur l'hebdo du Sherpa, Divergence FM 93.9. Aujourd'hui, dans l'hebdo du Sherpa, je reçois Nicole Dubois, la directrice de la grotte de Clamouse. On a donc amplement parlé en première partie de l'historique de la grotte. Et j'en viens à vous poser cette question, Nicole, sur la mise en lumière somptueuse de cette grotte, qui est une nouvelle mise en lumière avec des matériaux LED. Qui vient à peine de s'achever, je crois, puisque vous avez eu un reportage sur France 3 assez récemment, en avril. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette nouvelle, qui est d'ailleurs très écologique, puisque ça vous permet de diviser l'énergie par 45, quelque chose comme ça, non ?
Oui, c'est cela, oui. En fait, cet investissement qui a été très très important pour nos finances, a été engagé surtout à titre de protection de l'environnement souterrain. Ce que l'on ne sait pas en général, c'est que l'environnement souterrain, le milieu souterrain, est un milieu qui est très très fragile et que dès l'instant où on pénètre dans ce milieu, eh bien, on introduit des éléments qui n'ont rien à voir avec les galeries souterraines, avec ce milieu. Donc on est des éléments pollueurs. La première pollution, la plus importante qu'on trouve dans les galeries aménagées, la première pollution est due à la lumière. En effet, la lumière émet de la chaleur, dessèche les concrétions. Or, les concrétions sans eau ne continuent pas à se former et favorise, troisièmement, le développement de micro-végétation que nous avons drainé, que nous avons apporté sur nos vêtements, nous qui venons de l'extérieur et qui, avec les courants d'air, etc., finissent par se déposer partout. Et si les conditions du milieu les favorisent, elles vont germer, elles vont donner des encroûtements, notamment des encroûtements d'algues. Et c'est très grave parce que dans certaines grottes, on voit des concrétions qui sont recouvertes de pellicules noires qui sont irrécupérables. Tout simplement parce que, ça dessèche, mais il y a des moments où il pleut beaucoup et ça se remet à couler, les concrétions recommencent à être mouillées. Et à ce moment-là, il se dépose de la calcite sur ces encroûtements et c'est à jamais fossilisé. Vous parliez de fossiles tout à l'heure.
Oui, oui.
C'est en quelque sorte coulé sous une couche résistante de roche, de calcite.
Alors, est-ce que le LED permet justement d'éviter ça ?
Alors, le LED, c'est une ampoule extraordinaire qui ne permet pas la photosynthèse. Donc, pas de possibilité.
Ah bon, j'apprends quelque chose là, ouais, je ne savais pas.
Eh bien oui, moi, quand j'ai appris ça, j'ai approfondi effectivement. Vous savez que la photosynthèse, la lumière blanche, il y a toutes les radiations de l'arc-en-ciel. Et chacun sait que ce sont essentiellement les radiations qui sont dans le rouge, qui sont utilisées par les plantes pour faire leur photosynthèse. Et je pense que la lumière des LED qui traverse un cristal, eh bien, lorsqu'elle ressort de l'autre côté du cristal, les radiations rouges ont été en quelque sorte bloquées, ce qui fait que pas de photosynthèse. Et je dois dire que c'est l'élément majeur qui m'a poussé à à transformer nos éclairages. Car là, on était tranquille. En effet, dans Clamouse, notamment, nous avons de très vastes salles. Et quand vous voyez au plafond d'une salle qui fait 50 mètres de haut, vous voyez une tache verte qui ne cesse de s'accroître, il est impossible d'aller la nettoyer, là, à cette hauteur. Quoique j'ai un guide qui s'y risque. Eh bien, ça fait mal au cœur parce qu'on la voit pousser, on la voit pousser, on ne peut rien faire.
Alors, vous avez fait appel à une société allemande. Est-ce que ça veut dire qu'en France, il n'y avait pas de société capable de faire cette prestation-là ?
En tout cas, lorsque nous avons décidé, il y a déjà 2 ans que nous avons fait des investigations pour trouver une société capable de nous fournir des luminaires qui supporteraient les conditions de grotte, c'est-à-dire avec quasiment 99% d'humidité, et quelquefois 100%, parce que certaines lampes s'inondent, enfin sont sous l'eau lorsqu'il y a les crues. Oui, il a fallu autant de temps parce que tout les matériels du commerce que nous avons essayé pendant 2 ans se sont dégradés très très rapidement. Donc, évidemment, c'est sur Internet que nous avons trouvé un site qui se faisait fort de fournir des luminaires qui résistaient sous grotte. C'était des spéléologues qui proposaient ces choses-là et qui avaient, paraît-il, équipé toute une grotte en Allemagne avec ce type de lampe, et les photos que l'on pouvait voir sur Internet étaient vraiment très alléchantes. Donc, je me suis rendue en Allemagne pour voir ce qu'il en était.
Avec votre bâton de pèlerin.
Voilà. Nous avons fait un aller-retour avec Frédéric Villiers pour aller voir ce qu'il en était. J'étais d'autant plus soupçonneuse que, en fait, c'était pas une entreprise allemande. C'était le premier contact que nous avons eu était avec des Russes. Ouais. Alors des Russes qui travaillent en Allemagne, qui nous expliquent
qu'ils vendent des produits japonais, non ?
Non. Et ils faisaient fabriquer les luminaires en Biélorussie. Ouh là, je dis c'est curieux. On va aller voir ce qu'il en est.
Ouais.
Et nous y sommes allés. Effectivement, nous avons vu là, c'est une toute petite grotte qui a été équipée. Ils s'en servent comme grotte de démonstration. Oh, ça a été fabuleux. Ça nous a vraiment emballés. Et l'entreprise nous a paru sérieuse. Donc on est parti avec ces gens-là qui se sont déplacés, qui sont venus, qui nous ont fait un plan d'aménagement. Et pour le moment, je suis très satisfaite.
Donc voilà, ça c'est la nouvelle mise en lumière de la grotte de Clamouse qui a été faite au mois d'avril, c'est bien ça, de cette année ?
Terminée.
Oui,
terminée quasiment en février parce que nous avons rouvert en février.
Oui.
Tous mes employés ont travaillé dur tout l'hiver parce que nous fermons pendant 2 mois en hiver. Les 2 mois de fermeture ont été consacrés à ces aménagements. Et on a terminé la semaine dernière les derniers aménagements du tunnel de sortie que nous avons également équipé en LED.
C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, il y a un reportage que l'on peut voir, je crois, sur votre site internet, c'est
ça ? Oui, vous avez tous les reportages sur le site internet.
Alors, que je ne dis pas d'utile, c'est... Alors, je l'ai sous les yeux, je vais le dire aux auditeurs. Donc, pour la grotte de Clamouse, c'est www.clamouse.com. C'est bien ça, hein,
exactement.
Qui est très convivial. On y retrouve des photos, des vidéos, mais également des renseignements techniques, presque scientifique, hein, puisque c'est assez détaillé. On voit par exemple qu'il y a une très grande diversité de cristaux. C'est assez rare, hein, d'après ce que j'ai lu sur votre grotte. C'est qu'il y a la plus grande diversité de cristaux en France. C'est ça. Hein.
Oui, parce que... Alors, la particularité de Clamouse par rapport aux autres grottes de la région, c'est qu'elle est dans un calcaire particulier qu'on appelle la dolomie. Dolomie qu'on trouve également sur les grands causses, par exemple Montpellier-le-Vieux est dans la dolomie. Et cette dolomie est un calcaire hétérogène qui, lorsqu'il est altéré par l'eau, donne des reliefs ruiniformes en dentelle de roche, etc. C'est de plus un calcaire qui contient du magnésium, et c'est ce magnésium qui est responsable, si je peux dire, des formations très très fines de Clamouse qui sont les aragonites.
Alors, les aragonites, justement, comment on peut les décrire ? Alors, évidemment, j'invite les auditeurs à aller voir les photos et plus largement, à tout simplement aller visiter la grotte, bien entendu. Mais comment on peut décrire l'aragonite, justement, qui est quand même très particulière, hein ?
C'est un carbonate de calcium qui a la même composition que la calcite, mais qui cristallise dans un autre système et surtout dans d'autres conditions que la calcite. Ce qui fait que très souvent avec la mousse, vous avez les deux sur une même concrétion. Il y a une grosse concrétion de calcite. Et un peu plus tard, sur cette concrétion de calcite, se sont développés des appendices qui vont dans tous les sens ou qui ont des formes d'aiguilles qui sont de l'aragonite. Alors ceci s'est expliqué, je ne vais pas entrer dans les détails.
On laissera les auditeurs aller visiter la
grotte.
Voilà,
c'est une question de composition de l'eau. Au départ, disons que ce qui est le moins soluble, qui est la calcite, va concrétionner. Puis le solvant s'enrichissant en magnésium, ça va ensuite favoriser la formation des aragonites.
La grotte de Clamouse, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicole Dubois dans l'hebdo du Sherpa. Combien de salariés à la grotte de Clamouse à ce jour ?
À ce jour, il y a 9 salariés en CDI, ce qui est énorme.
Une grosse source d'emploi pour la région.
Absolument.
Pour le coin où il n'y a quand même pas tant d'emplois que ça. Hein.
Exactement. Et lorsque j'ai embauché tous ces employés, beaucoup de gens très jeunes, je leur ai dit, écoutez, je vous embauche bien que le site soit saisonnier, mais je vous avertis, vous allez être polyvalent. Ça veut dire qu'en hiver, vous ferez des travaux divers et variés parce que sinon, je vous prends à mi-temps ou je vous prends 2 mois l'été. Donc, c'est le deal que j'ai donné à ses employés, mais ça fonctionne très bien. Il y a une très très bonne ambiance.
Qui ont d'ailleurs travaillé sur le projet de mise en lumière, j'imagine,
Oui.
Très actifs là-dessus. Ouais.
Tous les gars étaient dans la grotte à faire du ciment pour cacher les câbles. Ceux qui connaissaient un petit peu d'électricité étaient à des tâches un peu plus nobles, je dirais. Mais tous les gars ont passé deux mois à travailler vraiment dans la grotte.
C'est quoi, c'est quoi les profils justement de ces gens-là ? Il y a des guides, il y a surtout des spéléos ou bien qu'est-ce qu'il y a comme profil ?
Alors, comme profil, divers et variés. Il y a beaucoup de gens que je connais, certains. Alors, le guide majeur qui va prendre sa retraite cette année a 37 ans de grotte de Clamouse.
À 37 ans,
oui. Oui, voilà.
Ça prouve qu'il doit s'y trouver bien.
Voilà, donc il va prendre sa retraite. C'est l'homme qui a fait le parcouru le plus de kilomètres sous terre. Je ne sais plus à combien de centaines de kilomètres il est. Enfin, on vous dira ça plus tard quand on va fêter son jubilé, si vous voulez.
Il doit connaître les moindres recoins de la grotte de Clamouse, j'imagine.
Il connaît très bien. Donc, il y a ce type de personnel qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Et puis, il y a des jeunes qui sont venus me proposer leur travail, avec qui ça a marché tout de suite. Alors, il y a certains qui sont plus au bureau, d'autres qui sont plus dans la grotte. En fait, j'ai réussi à trouver... un spéléologue qui s'occupe de la grotte et qui est très bien dans la grotte, qui travaillait déjà à Clamouse il y a 10 ans, qui est revenu, qui m'a dit j'aimerais bien revenir, mais bien sûr revenez. C'est trop précieux d'avoir un gars qui aime la grotte et qui voit ce qu'il y a à faire dans la grotte.
Une affaire de passion.
Et puis je ne connais pas de formation. Le spéléologue exploitant, en quelque sorte.
J'imagine.
Voilà. Donc, c'est divers et varié, mais les gens se laissent prendre, finalement, à l'intérêt du site et sont très, très accrochés au site, je dirais.
Merci beaucoup, Nicole Dubois, la directrice de la grotte de Clamouse, que j'avais le plaisir de recevoir aujourd'hui.
Mais c'est moi qui vous remercie.
La grotte de Clamouse se situe, pour ceux qui ne le savent pas encore, entre Saint-Jean-de-Fosse et Saint-Guilhem-le-Désert. Je donne le numéro de réservation 04 67 57 71 05. Le site internet, c'est clamouse.com, tout simplement, comme ça se prononce. C'est pas compliqué. Et les horaires d'ouverture, vous m'arrêtez si je me trompe. En juillet et août, c'est de 10h30 à 18h20.
Exactement.
C'est très précis, 18h20.
Oui, de toute façon, c'est 18h30, mais on préfère qu'ils arrivent 10 minutes avant la fête.
Sinon, ils passent la nuit dans la grotte. Merci beaucoup, Nicole Dubois. C'était l'hebdo du Sherpa. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
C'est moi qui vous remercie.